Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polotec
et préparé par Rachel Riemer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, à l'occasion du 70e anniversaire de la création du CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, nous recevons aujourd'hui Simon Perregaux, l'un des commissaires de l'exposition CDJC 1943-2013, documenter la Shoah, qui est présentée au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 17 novembre prochain. Le CDJC a été créé en pleine guerre, comme pour les archives du ghetto de Varsovie, recueillies par l'organisation Oneg Shabbat, dirigée par Emmanuel Ringenblum. Il s'agissait de recueillir des preuves de ce qui était en train de se passer en France, de constituer une documentation pour qu'après la guerre, on puisse écrire cette histoire et rendre justice aux victimes. Depuis le 1er janvier 2013, le CDJC s'appelle désormais le Centre de documentation du Mémorial de la Shoah. Toutes les archives du centre étaient donc à votre disposition, Simon Perregaux. Quel choix vous avez fait pour cette exposition? Quelle orientation vous avez souhaité lui donner?
Alors, tout d'abord, d'un point de vue chronologique, on a souhaité insister sur la période de fondation et sur ce qu'on pourrait appeler les années Schneerson, c'est-à-dire la période au cours de laquelle l'institution était dirigée par Isaac Schneerson, le fondateur. Donc l'exposition se penche surtout sur la période allant de la création de 1943 à 1969, la mort d'Isaac Schneerson, avec bien sûr un dernier panneau qui cherche à couvrir la période allant des années 70 à nos jours, mais néanmoins, on a voulu se pencher sur la période qui avait été de fait la plus explorée par les historiens, donc ces deux premières décennies d'existence. Pour ce qui est de la documentation, effectivement, on avait un choix très important, puisque Karen Taïeb, la responsable des archives, nous avait bien sûr ouvert son fonds. Alors, on a affaire à un fonds documentaire riche, mais néanmoins pas obligatoirement facile à mettre en valeur, parce que beaucoup de correspondances, beaucoup d'archives papier, et on est sur une exposition où le visuel joue bien sûr un rôle important. Donc, on a essayé de varier entre archives papier, recours bien sûr à des photographies, mise en valeur de la production historiographique à travers des ouvrages, la revue Le Monde Juif, et quelques vidéos qui permettent de resituer par exemple l'inauguration du tombeau du martyr juif inconnu auquel le CDJC a grandement contribué.
Alors, comme vous le disiez, une part importante de l'exposition est consacrée au fondateur, Isaac Schneerson. Il est né en 1881 en Russie. Quel a été le parcours de cet homme qui l'a amené jusqu'en France donc?
Alors, Isaac Schneerson a vraiment un parcours atypique. Il est issu d'une dynastie rabbinique chassidique. Il est un des descendants en ligne directe du fondateur du courant chassidique connu aujourd'hui sous le nom de Chabad, Lubavitch. Il est donc destiné à assumer des fonctions rabbiniques dans sa communauté d'origine, mais il s'éloigne assez rapidement de ce chemin qui lui était tracé. Il milite au parti des cadets, donc des sociodémocrates russes. Il s'initie à la littérature profane, il se familiarise avec le sionisme et il s'engage dans la Première Guerre mondiale pour finalement, une fois la révolution bolchévique survenue, venir en France et y mener une carrière d'industriel de plus en plus éloignée de la vie juive traditionnelle, mais certainement pas éloignée de la vie juive en général, car son appartement devient un lieu de sociabilité prisé par l'intelligentsia russe et juive russe.
Donc à la veille de la guerre, il a de nombreuses entreprises, c'est ça, c'est un entrepreneur prospère. Après la défaite de 40, il va évidemment en être dépossédé. Il va se réfugier en zone libre et c'est là qu'il va commencer à collecter des informations sur les persécutions.
Oui, alors tout à fait. Isaac Schneerson ne perd pas la nationalité française qu'il avait acquise à la fin des années 30, contrairement à d'autres juifs. Néanmoins, il perd les entreprises dont il avait le contrôle. Et c'est vrai qu'Isaac Schneerson, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il a cette mentalité, il faut qu'il fasse quelque chose. On lui enlève ses entreprises, et ben il trouvera une autre entreprise d'une toute autre ampleur, puisqu'il se donne pour mission, de manière vraisemblablement assez solitaire au tout début, se donne pour mission de collecter le plus d'informations et de documentation sur le sort que les Juifs sont en train de subir.
Quel type d'information dans un premier temps? Ça va être sur la question des spoliations déjà ou plus généralement sur le sort des Juifs?
Alors de ce qu'on sait des premiers travaux sous l'occupation, donc après avril 43, après la création à proprement parler du centre, il semblerait vraiment que l'accent soit mis sur collecter des informations sur les spoliations, dresser la liste des administrateurs provisoires. L'idée est même avancée de commencer à faire pression sur ces administrateurs provisoires pour les prévenir que justice sera rendue après-guerre. Donc on est vraiment dans une entreprise qui a l'après-guerre pour horizon d'attente. Mmh. On n'a par exemple pas d'entreprise de collecte de témoignages. On est semble-t-il pas dans une dimension proprement ou uniquement mémorielle et historique. On est vraiment dans la préparation d'un après-guerre qu'on imagine proche dans le temps.
Alors pourquoi il va choisir de s'installer très rapidement à Grenoble?
Alors le choix de Grenoble n'est pas fortuit. Isaac Schneerson arrive à la fin de l'année 42, début 43 à Grenoble, tout comme en fait de nombreux Juifs qui profitent de l'occupation du sud-est de la France par les troupes italiennes qui vont occuper cette région de novembre 42 à septembre 43, et qui ne vont pas montrer la même volonté que Vichy et les Allemands à persécuter les Juifs. On va parler d'une zone refuge pour cet espace et pour cette période précise. Donc, dans cette zone-là, c'est peut-être l'endroit le plus adéquat pour essayer de monter l'entreprise de collecte de documents, et puis surtout, l'endroit le plus adéquat pour réunir le nombre le plus important de représentants d'organisations juives, puisque se reconstitue à Grenoble une vie juive, non pas au grand jour, mais tout du moins, qui peut se développer sans la menace directe de l'arrestation et de la déportation.
Alors c'est au 42 rue Bizanet à Grenoble, c'est ça, chez Isaac Schneerson, mm-hmm. le 29 avril ou le 28, oui. 1943, que va avoir lieu cette réunion destinée à la création d'un centre pour la collecte d'informations, de documents sur le sort des Juifs en France. Qui participe à cette réunion et est-ce qu'il y a une prédominance idéologique?
Alors on a une quarantaine de représentants d'organisations juives, des organisations légales comme l'UGIF sont représentées, des organisations clandestines le sont également. On a phénomène notable des Juifs immigrés, des Juifs français. De ce point de vue-là, le CDJC participe à ce mouvement de rapprochement entre ces deux univers que symbolisera bien la création du CRIF quelques mois plus tard. D'un point de vue idéologique et politique, la Réunion est dominée par les sionistes. Les communistes qui ont entrepris de leur côté, les juifs communistes ont entrepris de leur côté de collecter aussi de la documentation, mais ils n'ont pas été conviés. Là-dessus, il y a très clairement une donnée politique à prendre en compte et qui va d'ailleurs poursuivre d'une certaine manière Schneerson, qui ne sera jamais très populaire après-guerre au sein des milieux juifs communistes immigrés, dont l'importance n'était loin d'être négligeable dans la vie juive à Paris dans les années d'après-guerre.
C'est quoi? C'est une question de classe?
Alors bon, pour Schneerson, son orientation politique, c'est ce qu'on appelle le sionisme révisionniste. Son inspirateur, c'est Jabotinsky. On est sur une opposition très ferme au projet d'émancipation porté par les communistes, également au rejet de la dimension proprement religieuse de l'identité juive. Certes, Schneerson s'est éloigné de la religion, mais pas au point de nier l'importance du fait religieux dans la définition de l'identité juive. Il y a donc un ensemble de facteurs qui expliquent la réticence de Schneerson et de ses compagnons à s'allier aux communistes, et ceux-ci, encore une fois, le lui feront bien sentir après-guerre en s'en prenant à différentes de ses entreprises. On a notamment de nombreux conflits après-guerre autour des commémorations qui s'organisaient au tombeau du martyr juif inconnu, dans le contexte desquels les communistes se sentent toujours marginalisés, ont le sentiment qu'on ne leur donne pas la parole. Donc l'histoire troublée entre Schneerson et la fraction communiste du monde juif ne se limite pas à cette non-invitation à la réunion fondatrice.
Alors, est-ce qu'il y a des missions concrètes qui vont émerger de cette réunion ?
On a beaucoup de velléités, création de 9 commissions avec des rapporteurs, des sous-rapporteurs, des programmes de recherche. De fait, il n'y a pas beaucoup de temps pour agir. Avril 43, c'est la création. Septembre 43, c'est l'invasion de la zone italienne par les troupes allemandes, qui entraîne bien sûr la dispersion de la population juive réunie dans cette zone, Schneerson y compris. On n'a donc pas beaucoup le temps d'agir, mais néanmoins, un travail conséquent est mis en œuvre du côté de la question des spoliations. Léon Poliakov et d'autres témoins de cette époque rapportent le fait que Schneerson avait réuni une petite troupe de dactylographes qui recopiaient inlassablement le journal officiel pour noter les entreprises arianisées, faire des listes des administrateurs provisoires. Donc on est dans un travail très très concret de collecte de l'information. Malheureusement, une partie importante de ces premiers travaux a été perdue au moment de la dispersion consécutive à l'invasion de la zone italienne.
Donc effectivement, en septembre 43, les membres donc de cette commission vont être dispersés. Beaucoup d'entre eux vont être déportés. Isaac Schneerson, lui, se cache à Mussidan, et c'est seulement au moment de la libération en automne 44 qu'il va relancer les activités du centre. D'ailleurs, on peut noter que c'est en juin 45, c'est ça, qu'il sera officiellement appelé le CDJC.
Oui.
Après-guerre, quelle va être la première action, on va dire, du CDJC ?
Alors, dans l'immédiat après-guerre, alors l'action, c'est d'abord une action pour la survie, parce qu'il faut financer le centre. Et de fait, les œuvres juives soutiennent Isaac Schneerson. C'est une figure communautaire qui a un entre-gens important, qui a de très bonnes relations avec beaucoup de personnes influentes dans la communauté. Mais néanmoins, la communauté est très appauvrie au sortir de la guerre. Donc il faut déjà se battre pour obtenir des financements. Et ça passe essentiellement par l'aide qu'apporte le Joint, donc une organisation juive américaine importante. Une fois qu'on a des financements, l'activité se divise en plusieurs champs. Schneerson et son équipe tiennent à maintenir un agenda qui associe historiographie et travail plus concret au service de la justice. Donc on lance une revue, on écrit des livres, mais on ne perd pas de vue les objectifs concrets qui présidaient à la création du centre. C'est pourquoi Schneerson met la documentation qu'il a trouvée dans l'après-guerre au service des procureurs français qui interviennent dans le cadre du procès de Nuremberg. C'est pourquoi Schneerson relance la question et la recherche des biens en déshérence. Donc on est toujours sur cet entre-deux, entre une quête scientifique et désintéressée du savoir, et en même temps une mise au service des informations collectées, mise au service d'entreprises liées à la justice, au procès des criminels de guerre, à la restitution des biens spoliés.
Justement, dans ce cas, il y a une figure importante, c'est Léon Poliakov, qui va être chargé de constituer le fonds d'archives et qui sera aussi présent au procès de Nuremberg. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette...
Oui, Léon Poliakov, effectivement, c'est une figure très importante pour les débuts de l'histoire du CDJC. Il s'en éloigne dans les années 50 tout en restant un collaborateur privilégié. Il est entré en contact avec Schneerson par l'intermédiaire d'un autre personnage important qui est Zalman Schneerson, un cousin d'Israq Schneerson. Il se retrouve donc à la tête d'un service des recherches du CDJC, qui n'est en fait qui se résume à sa personne, avec pour mission de trouver des archives pour commencer à constituer un fonds. Il a beaucoup de chance puisqu'il se retrouve avec les archives de l'administration SS en France, donc dans ce qu'il appelle ces moments un peu incertains de la libération où les choses flottaient un peu. Un commissaire lui donne donc une caisse remplie d'archives écrites en allemand qu'il ne savait pas lire. Et ce fonds constitue le démarrage de l'histoire archivistique du CDJC. C'est ce fonds qui est mis à la disposition des procureurs français et qui permet à Léon Poliakov d'intégrer la délégation française, de suivre de près le procès, même s'il s'y ennuie assez vite et rentre en fait assez rapidement en France. On a un autre collaborateur du CDJC, Joseph Bilic, qui lui se passionne pour le procès et il reste jusqu'à la fin, jusque même au procès qui suivent le procès de Nuremberg. Poliakov, parallèlement donc à cette activité de recherche documentaire, se met à produire des premières synthèses historiques, des recueils de documents. Il faut rappeler que lui, il n'a pas de formation historienne. Il est venu à l'histoire du fait de ça. Voilà. Alors, tout d'abord, parce qu'il a subi, en tant que juif, qui plus est juif assimilé, cette violence de l'antisémitisme et des persécutions. Donc, il est vraiment dans une démarche où il essaie de comprendre ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé aux siens. Il commence par des travaux assez modestes, des collectes des synthèses qui présentent des documents où il les explique, mais on est vraiment dans la restitution de l'archive. Et puis, petit à petit, son travail prend de l'ampleur pour aboutir à ce qui reste la première synthèse sur l'histoire du génocide, Bréviaire de la haine, qui est publiée en 1951 chez Kalman Levy, ce qui d'ailleurs posera problème puisque Schneerson aurait bien sûr voulu que cette somme considérable soit publiée par sa maison d'édition, les éditions du Centre. C'est à ce moment-là que Poliakov et Schneerson se séparent pour quelque temps, et puis Poliakov fera la carrière qu'on sait, académique, en s'investissant non plus directement dans l'histoire de la Shoah, mais dans celle de l'antisémitisme.
Alors on a cité Léon Poliakov, Joseph Bilic. Le CDJC a joué un rôle pionnier dans l'historiographie de la Shoah, notamment avec la revue Le Monde Juif. Comment ça s'est passé au fil des années ?
Alors, le CDJC, effectivement, a joué un rôle pionnier, a posé une première strate historiographique qui s'intéressait tant au cas français qu'à la perpétration du génocide en Europe orientale. Donc on avait une dimension transnationale assez forte dans cette historiographie. Les années qui nous intéressent, donc ces années Schneerson, sont marquées par des difficultés financières. Donc ça veut dire rareté des financements pour des publications. Donc il est vrai que les années qui suivent l'euphorie des premiers temps de la libération, ces années sont marquées par un moindre nombre de publications, mais néanmoins un resserrement sur des ouvrages d'une qualité exceptionnelle. Joseph Bilic produit par exemple 3 volumes sur le commissariat général aux questions juives en 55, 57 et 60, qui demeure une synthèse qu'utilisent les historiens aujourd'hui lorsqu'ils se penchent sur les mécanismes de la persécution en France. Dans sa production éditoriale, c'est vrai que le CDJC cherche aussi à mettre en valeur son travail. Donc on a la production d'outils plus que de recherche, outils bibliographiques, inventaire des archives, qui sont bien sûr des publications arides pour l'œil contemporain, mais qui, dans l'entreprise de recherche à l'époque, étaient des outils inestimables qui faisaient venir à lui un nombre important de chercheurs. C'est vrai qu'on essaye de montrer dans l'exposition plusieurs fiches de lecteurs, de grands chercheurs, qui trouvaient au CDJC un des rares lieux où entrer en contact avec des matériaux archivistiques. À une époque où les archives nationales n'étaient pas ouvertes sur cette période, le CDJC palliait un manque cruel de documentation.
Ça a continué, notamment avec Serge Klarsfeld.
Bien sûr, Serge Klarsfeld, dont on présente la fiche de lecteur qui date des années 60, donc du moment où il commence à se pencher sur cette question. Serge Klarsfeld a beaucoup parcouru les archives du CDJC pour ses recherches. Il y a trouvé le fameux document qui a permis d'incriminer Klaus Barbie, le Telex d'Izieux, dans lequel Barbie rencontre à sa hiérarchie de l'arrestation des personnes présentes à la colonie d'Izieux en 1944. Donc le CDJC reste bien sûr encore aujourd'hui un formidable gisement d'archives et en perpétuelle évolution, puisque le fond n'est pas figé, mais on a une politique d'acquisition, de recherche d'archives très, 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 très dynamique, qui passe notamment aujourd'hui non plus par des archives administratives ou des archives des responsables des persécutions, mais plus par la quête d'archives familiales, de correspondances, de photographies qui donnent un tout autre regard sur les événements considérés.
Alors il y a un autre domaine dans lequel il a été pionnier, c'est Schneerson. C'est lui qui a eu l'idée de créer le premier mémorial avant Yad Vashem. Mm-hmm.
Alors effectivement, Schneerson, donc je vous l'ai dit, est un entrepreneur. Il semblerait que, une fois qu'il a créé le CDJC commence à produire des travaux, à travailler. Et en même temps, Schneerson voit toujours plus grand. Alors il voit plus grand tout d'abord peut-être parce qu'il constate que le CDJC manque de visibilité et que construire un grand mémorial qui abriterait les archives donnerait cette visibilité au centre. Mais je crois aussi que c'est dans sa nature d'entreprendre, de voir plus grand. C'est pourquoi au début des années 50, il lance ce projet d'un ce qu'il appelle un tombeau du martyr juif inconnu qu'il veut ériger à Paris. Alors il trouve tout un argumentaire pour justifier Paris, patrie des droits de l'homme, patrie qui a émancipé les juifs sous la Révolution française. Mon opinion, c'est qu'il se serait trouvé à Bordeaux ou je ne sais où, il aurait construit son monument parce que ça l'habitait véritablement. Et effectivement, son projet devance les Israéliens, devance la Knesset, qui réagit d'ailleurs avec un peu d'inquiétude en voyant ce juif à Paris qui lance un projet monumental, qui commence à collecter de l'argent, qui obtient le patronage de la veuve de Roosevelt, de Churchill, de Gaulle. Ça fait un peu réagir en Israël, où on se dit la centralité de la mémoire, c'est l'État hébreu qui doit la porter. Donc effectivement, les rapports entre Schneerson et Yad Vashem n'ont pas été faciles. On est clairement sur des rapports de compétition entre institutions qui émergent et qui luttent pour une forme de monopole dans la gestion du souvenir. Et Yad Vashem est créé en réaction à l'initiative de Schneerson. On présente dans l'émission un accord qui est passé entre les deux organisations en 1953, qui permet d'aplanir les choses, de rendre possible la poursuite du projet de Schneerson, tout en rappelant que la place d'Israël dans cette géographie du souvenir est bien sûr centrale.
Alors, on l'a dit en tout début d'émission, le CDJC s'appelle depuis le 1er janvier 2013 le Centre de documentation du Mémorial de la Shoah. Quelles sont ses missions aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, bien sûr, les personnes qui y travaillent en parleraient mieux que moi, mais on a trois divisions, la bibliothèque, les archives et la photothèque. On est dans une, de ce que je peux moi en fait en juger aussi en tant qu'usager, puisque je suis un habitué du centre, comme je vous ai dit, une forte politique de renouvellement des fonds, d'archives, d'appels aux particuliers. On reçoit beaucoup de... L'équipe du CDJC reçoit beaucoup de personnes qui viennent déposer des photos, des correspondances, des papiers de famille. La bibliothèque est bien sûr dans une politique d'acquisition, de renouvellement de son fonds. Et le CDJC, il est vrai, continue aussi à travailler du côté de la justice, puisque les politiques d'indemnisation ne sont pas terminées. Des gens ont encore droit à des indemnisations. La Claims continue à aider des survivants âgés dans le besoin. Et le CDJC aide aussi ces personnes à constituer des dossiers.
Très bien, je vous remercie beaucoup d'être venu. Simon Perregaux, je rappelle que l'exposition « Le CDJC 1943-2013, documenter la Shoah » est présentée au Mémorial de la Shoah à Paris du 25 avril au 17 novembre 2013. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.